Cher lecteur, bonsoir. Bonsoir Santiago Amigorena.
Bonsoir.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, ce soir, on se retrouve pour le dernier roman qui a été publié aux éditions POL, La justice des hommes, de Santiago Amigorena. Un roman qui nous a beaucoup plu, à tous les deux. Alors, vite, pour vous présenter rapidement, vous êtes né à Buenos Aires, vous êtes écrivain, scénariste, producteur de cinéma. Vous écrivez plusieurs romans, dont un qui a été qui a connu énormément de succès, Le ghetto intérieur, je pense qu'on vous a reçu en Belgique aussi. Et vous nous revenez aujourd'hui avec La justice des hommes. Alors nous, ce livre nous a particulièrement plu parce qu'il aborde avant tout un sujet. Comment déborde l'amour? Pardon, comment et qu'est-ce qui fait que lorsque déborde l'amour, c'est souvent malheureusement la haine qu'on exprime? Alors très très rapidement, pour faire le pitch, Alice et Aurélien, eh bien c'est un couple ordinaire. Ils sont parents de deux enfants, Lou et Elsa. Alice, qui se sent délaissée par son mari, prend un amant et un soir de dispute, Aurélien commet un acte grave qui le mène devant la justice. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est condamné à 9 mois de prison ferme et il se voit retirer son autorité parentale. Pendant son incarcération, Aurélien refuse de voir sa femme et ses enfants. Il refuse de communiquer avec qui que ce soit. Il s'installe dans un silence, de même que sa fille, Elsa, mutique depuis le traumatisme qu'elle a subi le soir de la dispute. À sa sortie, Aurélien ne prévient pas Alice et s'installe en banlieue éloignée. Alors vous nous montrez à travers ce livre comment l'amour et la haine peuvent s'imbriquer dans un tohu-bohu d'amour et de haine et comment justement la justice des hommes peut faire prendre un tournant dérangeant à une affaire familiale intime quand les deux protagonistes confient leur destin à des avocats. Une fois entre les mains de la justice, on a l'impression que plus personne ne contrôle les choses. Alice et Aurélien vont en effet se retrouver dans une spirale qui va les emporter. Le problème avec la justice des hommes est simple. Trop souvent, elle n'est pas humaine. La justice se saisit de leur histoire, mais que peut-elle face à ces hommes, à celle des hommes, pardon. Que peut-elle pour un couple qui n'a pas encore retrouvé le moyen de se parler, de se dire les choses? La justice juge un acte qualifié de mal et commis à un certain temps avec cette approche. Et vous déclinez une réflexion sur le mal et sur le bien en insérant bien entendu l'idée de nuance, la non-binarité de la vie surgit alors. Quand l'amour s'éteint, comment la justice peut-elle aussi prononcer un jugement juste? Alors ce livre s'immisce à merveille dans la difficulté d'un homme et d'une femme à faire la part des choses en cas de séparation. Personnellement, et toi aussi, nous avions beaucoup aimé Le ghetto intérieur où déjà vous traitiez du thème du silence, de ce que les mots n'arrivent pas à dire, de ces mots qui trahissent notre pensée et rompent les liens. On retrouve ce thème abordé ici sous l'angle du mutisme post-traumatique de la petite fille du couple. L'auteur aborde la question du silence, celui qu'Aurélien, le père, s'impose pour réfléchir à son acte. Vous analysez finement la complexité des relations humaines, les conséquences de la violence, d'une séparation pour des enfants et surtout la difficulté de communiquer au sein d'un couple alors que l'amour est toujours là. On va commencer avec nos questions. David, te laisse.
Santiago Amigorena, quelle est à vos yeux la notion de justice parmi les êtres humains? Quel est son rôle? Quels aspects fonctionnent dans ce système de justice et quels aspects ne fonctionnent pas? Pourquoi, j'ai plusieurs questions, pourquoi avez-vous choisi le titre « La justice des hommes » pour votre roman? Est-ce peut-être en raison du fait qu'il n'y a qu'une, au singulier, qu'une seule justice pour tous les êtres humains?
Oui, en fait, je me suis rendu compte assez tard. Je choisis le titre très tôt dans l'écriture. Parfois, on écrit des livres et on cherche un titre après. Là, le titre était là depuis le début et ça m'a semblé évident. Et il est resté. Mais en fait, en parlant du livre, je me suis rendu compte que je l'avais sans doute appelé La justice des hommes parce que pour moi, il y avait une évidence dans une forme d'ironie qu'il y avait dans le titre. C'est-à-dire que appeler un livre La justice des hommes, c'était forcément qu'on n'allait pas dire du bien de la justice. Et je ne suis pas sûr que, c'était, que j'avais raison, parce que j'ai l'impression qu'il y a, les deux, évidemment, comme toujours dans les lectures, il y a des lecteurs pour qui ça affirme que la justice des hommes existe, et d'autres pour qui, voilà, qui comprennent un peu l'ironie qui fait que, pour moi, elle n'est pas, quoi, c'est pas la seule justice, évidemment, et surtout qu'elle n'a pas à s'occuper d'absolument tout ce qui est humain. Donc là, disons que la question qui, moi, me faisait écrire pendant longtemps, c'était d'essayer de comprendre moi-même ce à quoi je ne peux pas répondre, pas ce que je pourrais dire de la justice en disant, voilà, la justice doit intervenir dans tel cas, elle ne doit pas intervenir, elle peut s'occuper de telle chose, pas de telle autre. C'est évident que c'est pas une critique de la justice dans le sens où, voilà, la justice, je sais pas, dans une violence conjugale, dans une violence faite aux enfants, c'est évident qu'elle doit intervenir et qu'elle est absolument nécessaire. Mais dans le cas de deux personnes qui décident de se séparer mais qui s'aiment toujours et qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui est de l'amour et ce qui est de la haine, c'est très difficile de trouver une place pour la justice qui, lorsqu'elle est officielle, disons, tend à séparer le bien et le mal d'une manière très claire. Donc c'est la question que pose le livre, c'est de quoi peut s'occuper la justice, de quoi elle ne peut pas s'occuper. Et évidemment, je n'y réponds pas.
Oui, ok, merci beaucoup.
Il n'y a pas de réponse non plus.
Non. Le dramaturge Ibsen affirmait que ce que l'on a perdu, on ne le possède pas éternellement. Pourquoi et comment votre roman est-il une méditation de la perte, de soi automatiquement, du pardon et de la culpabilité ?
La phrase exacte, c'est « on ne possède éternellement que ce qu'on a perdu ». C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans cette phrase que je cite depuis très longtemps, je l'ai lue quand j'étais adolescent, et elle m'a marqué, c'est que je pense que ça introduit une sorte de proximité entre la notion de perte et la notion de possession. Et qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qui est la perte, ce qui est la possession. C'est très clair que dans l'amour, par exemple, on ne veut que posséder quelqu'un, on est confronté absolument tout le temps au fait qu'on ne peut pas posséder un être humain. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder l'ensemble d'un être humain, on ne peut pas posséder son passé, on ne peut pas évidemment posséder son âme. Donc on est devant cette impossibilité et que lorsqu'on perd un amour, très souvent, effectivement, on le possède davantage. C'est-à-dire qu'un amour perdu, bah, ça provoque de l'écriture, ça provoque des histoires. Voilà. La littérature est absolument remplie de textes qui parlent de femmes ou d'hommes perdus. Et on voit bien que les auteurs arrivent à trouver une forme de possession à travers l'écriture, mais c'est parce qu'il y a eu perte. Quoi. Ça ne peut pas aller sans ça. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de plénitude, parfois, à partir du moment où quelque chose manque. Et là, la relation entre Alice et Aurélien, donc il y a un couple assez jeune qui ne trouve pas les mots, qui ne sont pas armés pour se confronter à ce qui leur arrive. En fait, je pense qu'ils cherchent des mots pour nommer quelque chose qu'on devrait appeler encore de l'amour, mais qui très clairement n'est plus l'amour dont on parle en général. C'est-à-dire que quand on se sépare, surtout quand on se sépare avec des enfants, il y a quelque chose qui dure de l'amour. Et en même temps, on ne peut plus l'appeler amour. Donc voilà, je pense que le livre tourne autour de ces deux questions, de comment, dans l'intimité, un couple peut s'aimer et ne plus s'aimer à la fois, et comment la justice, dans cette situation-là, devient un peu absurde.
La justice avec ses gros sabots. Alors Aurélien, un de vos personnages, nous dit que il y a en nous un endroit où aucune justice ne peut distinguer le juste de l'injuste. Existe-t-il pour vous une forme de justice capable de véritablement juger les affaires du cœur? Pouvez-vous nous approfondir un petit peu ce point de vue?
Non, je pense pas que ce soit la justice qui doit se... C'est ce qu'on appelle communément justice. Disons que elle ne peut pas s'occuper de cette intimité humaine. À un moment, Aurélien pense à ce terme qui pourrait être... je crois qu'on ne l'a pas beaucoup employé. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais entendu. Donc, c'est pas pour dire que j'ai créé quelque chose. Mmh. Mais donc, il dit que ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas la justice divine, c'est la justice intime qu'on aurait dû convoquer pour nous aider à résoudre notre problème. Cette justice intime, justement, c'est une justice qui ne sépare pas le bien du mal. C'est-à-dire c'est une justice où on peut tout à fait... considérer qu'on aime et qu'on est en même temps.
C'est une justice subjective.
Mais plus que subjective, je pense que c'est même l'idée même de la manière dont on raisonne. C'est-à-dire qu'on est... je ne vais pas partir trop loin, j'ai déjà écrit sur ça dans d'autres livres, mais à partir d'un certain moment dans l'histoire occidentale, la raison devient une seule raison. C'est très clair, voilà, avec Socrate, Platon, par rapport au pré-socratique, avec le monothéisme par rapport au polythéisme. Voilà, il y a quelque chose qui s'établit qui permet, en gros, de séparer tout le temps. Bien et mal, vrai et faux. Avant, c'était un peu mélangé. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à chercher qu'est-ce qu'on peut retrouver de ce mélange, de cette indifférenciation des sentiments et des choses. Et je pense que l'oubli, quoi, pour revenir à la question précédente, justement, joue à ce niveau-là. Mmh. Parce que l'oubli, qui est quelque chose qui est assez décrié dernièrement, c'est-à-dire que très souvent, quand on parle d'oubli, on se fait taper sur les doigts parce qu'il faut le devoir de mémoire, il faut se souvenir absolument de toutes nos blessures. Et moi, j'ai toujours pensé plutôt le contraire. C'est-à-dire que je pense que l'oubli est absolument nécessaire, autant aux êtres humains, justement, parce que Alice et Aurélien, par exemple, doivent oublier cette nuit où il y a eu un drame. Surtout que c'est un drame un peu fortuit. Quand très souvent, je racontais mon histoire, ces trois derniers mois, en parlant du livre, en employant les mêmes termes que vous, c'est en disant, c'est une dispute violente, il se passe quelque chose qui fait qu'Aurélien finit par passer 9 mois en prison. Mais ce qui se passe est assez simple, c'est-à-dire que un policier l'empêche de s'approcher de ses enfants. Il est très, très énervé. Il est fou de jalousie. Il pousse le policier. Le policier se fait heurter par une voiture. Donc, c'est un événement qui peut arriver à n'importe qui et qui n'est pas... ça n'a rien à voir avec frapper sa femme.
Non, et c'est lié à un moment même.
Et c'est ce moment-là. Et ce moment-là provoque tout ce qui va suivre. Mais eux deux cherchent à oublier ça, d'une certaine façon, pendant tout... Tous les mois que dure l'histoire du livre, c'est ça qui est en jeu. Et c'est cet oubli-là qui est, je le dis souvent politiquement, c'est un oubli, un oubli positif dans le sens où c'est un oubli qui a élaboré un traumatisme. Donc, terme psychanalytique, c'est un travail du deuil. Donc, voilà, comment oublier pour arriver plutôt à un état de paix?
Et dans ce cas-là, comment oublier pour pardonner aussi? Enfin, oui, pour accepter.
C'est une phrase de Borges que je cite dans le livre et que je cite souvent, que l'oubli est le seul pardon et la seule vengeance. Et en fait, ce qui est très fort, je trouve, dans cette phrase-là, c'est que si on la rapporte à tout ce qui se passe dans le monde, effectivement, c'est l'oubli qui a toujours permis la paix. C'est l'oubli qui permet l'amnistie. C'est ça que revendique Antigone aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut pouvoir oublier. Et ça ne veut pas dire qu'il faut imposer l'oubli, évidemment. Ça n'a aucun sens d'imposer l'oubli. Là, on est dans le refoulement.
Tout à fait.
Mais dans les situations politiques qu'on vit aujourd'hui, je crois que il faut justement penser, parler pour aller vers l'oubli.
Alors, votre livre, se termine par des réflexions très personnelles sur les liens entre la fiction et la réalité dans l'écriture. Qu'est-ce que, pour vous, la fiction peut-elle accomplir que la réalité, elle, ne peut pas?
Oui, c'est une question étrange parce que j'écris beaucoup sur moi-même. Il y a beaucoup de mes livres où le narrateur s'appelle Santiago Amigorena, comme moi. Donc, il y a quelque chose d'un peu indifférencié entre le narrateur et moi-même. Et en même temps, je pense que la fiction nous enseigne beaucoup de choses. Et pas seulement c'est quoi, je n'écris jamais pour enseigner quelque chose au lecteur, mais je me rends compte que j'apprends des choses sur moi-même, à travers les lectures, mais aussi à travers l'écriture de la fiction elle-même. Il y a une question que je pose à la toute fin du livre et qui m'occupe beaucoup depuis quelques mois, c'est pourquoi parfois on écrit des choses sur des personnages et les personnages nous ressemblent et parfois ils ne nous ressemblent pas. C'est très mystérieux parce que voilà, dans ce livre-là, quoi, l'exemple le plus clair, c'est qu'Aurélien veut écrire, donc on peut dire qu'il veut être écrivain comme moi. Je ne veux pas dire que je suis écrivain, mais j'écris beaucoup. Et je dis que ces auteurs un peu préférés, les auteurs qui ont eu le plus d'importance pour lui, sont Flaubert, Céline et Faulkner. C'est des auteurs que j'ai lus, mais qui n'ont pas été très importants pour moi. Et je me suis vraiment demandé souvent, mais pourquoi je lui ai donné cette caractéristique-là? Et je n'ai pas dit les auteurs qui ont été importants pour moi, Proust, Joyce, Musil, Kafka, Borges, quoi. Il y en a plein d'autres qui ont été plus importants pour moi. Et je n'ai pas de réponse non plus à ça. Mais c'est très clair que parfois, il faut utiliser un personnage pour s'éloigner un peu de soi-même, pour pouvoir se regarder de plus loin aussi. Voilà. Parce qu'en tant qu'auteur, on s'identifie évidemment aussi au personnage, comme le lecteur.
Bien sûr.
Comme nous sommes en présence de Santiago Amigorena, pour nous, il va de soi que certains personnages se réfugient dans le silence. Et en plus, ce silence, il se transmet, dans ce cas-ci. Alors pour vous, finalement, que représente le silence? En quoi peut-il être une arme, peut-être? Pourquoi il se transmet? Et encore une question, y a-t-il une différence entre le silence d'un adulte et celui d'un enfant? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Ouais.
Mais c'est très complexe parce que le livre, Le ghetto intérieur, c'était vraiment sur. Je m'interrogeais vraiment sur comment j'avais hérité du silence de mon grand-père. Et je me souviens qu'à l'époque, je disais souvent ce qui m'avait poussé à écrire, c'est que c'est très facile de dire qu'on a hérité d'un secret, qu'on a hérité d'une parole, d'une opinion, qu'on a hérité d'une commode. Voilà, c'est un peu les mêmes. C'est ça, quelque chose d'un peu matériel. Comment on hérite d'un silence? D'un silence qui ne cache pas, quoi. C'est pas un silence qui dissimule un trauma, c'est vraiment, voilà, pourquoi ce silence de mon grand-père, finalement, j'en ai hérité. Je n'ai pas de réponse, je le dis tout de suite. Là, le silence, il y a trois personnages silencieux dans ce livre, donc il y a le père et la fille, Aurélien et Elsa. C'est des silences assez différent, parce qu'Elsa, c'est un silence vraiment traumatique qui dure quelques mois et qui s'arrête assez brusquement. Quoi. Elle retrouve vraiment la parole. Lui, c'est un silence qui est assez semblable au mien. C'est-à-dire que j'étais un enfant extrêmement silencieux. Malgré les apparences, quand je suis à la radio, je suis encore très silencieux. C'est-à-dire, dans l'intimité, disons que je suis encore vraiment très silencieux. Mais je n'ai pas d'incapacité à parler, quoi. C'est ni une incapacité physique, ni voilà, c'est, je sais pas, c'est ce qui me fait écrire, ça c'est très clair, mais voilà, je ne pourrais pas résumer à travers des mots qui sont pas écrits ce que c'est pour moi le silence. Et après il y a un autre personnage qui est quelqu'un qui s'est aussi enfermé dans le silence pendant 6 ans et qui raconte ce silence là qui est le personnage d'Ahmed. Qui raconte juste son histoire avec le silence et qui est encore une autre forme d'enfermement. En tout cas, c'est clair qu'il y a toujours quelque chose de s'exclure du monde.
Ce que je remarque en tout cas, c'est qu'il y a énormément de formes de silence.
Oui,
finalement.
Oui, c'est aussi ça qui me surprend dans le silence, c'est que je dis un moment, je crois que le silence, on peut lui faire dire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est silencieux, on peut interpréter le silence de plein de manières. Mais en fait, le silence lui-même a quelque chose d'extrêmement différent. C'est vrai qu'il y a des silences presque bavards, qu'il y a des silences agressifs, il y a des silences où c'est évident que la timidité, on voit plutôt, quoi, provoque plutôt la compassion. C'est vraiment des formes très différentes. Très différente. Et surtout, il y a un silence qui est pour moi le silence de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture elle-même est une activité très silencieuse. C'est-à-dire quand on lit, on a un peu tendance à l'oublier, parce qu'au moment de la lecture, il y a une voix, mais c'est la voix du lecteur, pas celle de l'écrivain. Mais quand on écrit, c'est très silencieux. C'est une exclusion aussi du monde, quand on s'éloigne du monde pour écrire. Et en même temps, l'écriture elle-même, quoi, qui est faite de mots, s'il n'y avait pas le silence à côté, elle n'aurait aucun sens. Mmh. On ne peut pas écrire loin du silence. Donc,
mais quelle richesse, le silence, finalement.
Je pense que c'est aussi important que le langage. Mmh. C'est-à-dire que le langage est fait énormément de silence. Donc,
Mais d'ailleurs dans si je peux me permettre, dans votre écriture, comme dans une partition musicale, on sent les silences. Mmh. Il y a des choses écrites et il y a des choses silencieuses. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez très consciemment.
Oui, j'essaye d'introduire du vrai silence, parfois d'une manière un peu presque trop explicite, donc en mettant des ponctuations au milieu des phrases, donc qui arrêtent d'une façon brusque quelque chose qui théoriquement ou logiquement ne serait pas arrêté, mais aussi parfois une description, c'est imposer un silence aussi, c'est-à-dire quand il y a un personnage et qu'on est en train de suivre un personnage, que tout d'un coup on s'arrête sur quelque chose d'autre, même une digression. Une digression un peu théorique peut être aussi une forme de silence dans une narration. Donc, mais c'est dans la forme poétique, sans doute, qu'il y a l'évidence la plus grande du silence. Quoi. C'est le silence est omniprésent dans la poésie, même dans la disposition des mots en vers sur une feuille. Quoi. Mais c'est quelque chose qui, quoi, pour moi, a toujours été important. Depuis l'adolescence, voilà, il y a une... Je dis souvent que j'ai commencé à écrire quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à écrire. Et là, pour le coup, à 6 ans, je ne parlais pratiquement pas. Et que c'était vraiment une sorte de libération de pouvoir écrire. Et qu'après, très vite, à l'adolescence, à partir de 12 ans, j'ai compris que en fait, l'écriture était une autre forme de silence, que ce n'était pas une parole. Donc, ce que j'écris, c'est plutôt pour aller vers la parole.
Alors, la mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes est le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Une citation de Hannah Arendt. Alors l'empathie, pour exemple le rapport aux enfants dans votre roman, et le manque d'empathie, pour exemple les avocats, sont représentés dans le roman. Quel est votre rapport à l'empathie? Et c'est quoi finalement le rapport entre justice et empathie dans votre roman?
Y a-t-il même empathie?
C'est complexe parce que je revendique souvent quand j'écris de la fiction. Quand je dis de la fiction, c'est que ce texte-là est plus clairement un roman que d'autres textes que j'ai écrits. Et c'est ce que je fais aussi beaucoup au cinéma, donc de ce moment de la fiction un peu classique. Disons, quand on fait des dialogues, les personnages sont vraiment des constructions. Dans ces cas-là... Comment dire, j'ai l'impression que ce qu'on essaye de créer à travers la fiction, ça traîne une tradition absolument immense de laquelle on ne peut pas s'échapper, qui sont beaucoup de récits qui nous ont formés, et certains récits, j'aime bien l'idée qu'il y a très peu de récits qui ont donné tous les autres récits. Donc il y a l'histoire du guerrier qui rentre de la guerre, l'homme qui pense qu'il est Dieu. Voilà, il y a quelques textes fondateurs comme ça sur lesquels on varie seulement. Et très souvent, j'ai l'impression que la tradition est allée vers une perte d'empathie. C'est-à-dire qu'on a créé assez vite la forme du méchant. Mais cette figure du méchant est déjà très monothéiste. C'est-à-dire que c'est l'opposé d'un Dieu qui est parfait, d'un Dieu qui est absolument bon. Et j'ai toujours écrit un peu contre ça. Donc c'est vrai que dans ces livres-là, je m'en veux presque que les avocats ne soient pas, soient pas plus sympathiques.
Oui, ça fait partie de la fiction. Hein.
Oui, mais j'ai toujours le sentiment qu'il y a un peu une perte de sens quand moi-même, je n'éprouve pas de la sympathie pour les personnages. Mmh. Et avec un des personnages, surtout d'avocat, là, c'est vrai que j'ai presque ce sentiment-là de ne pas avoir réussi à éprouver la sympathie qu'il aurait fallu pour l'écrire mieux. Et c'est la sympathie, c'est pas l'empathie. Ouais, c'est vraiment le fait de choisir à chaque fois que le personnage soit le plus humain possible. Effectivement, dans l'humanité, voilà, il y a du bien et du mal, et c'est pas absolument séparé. Quoi. Le livre ne parle que de ça. Mais dans un personnage, c'est peut-être beaucoup plus coupable de faire un personnage qui est seulement méchant qu'un personnage qui est seulement beau. Ouais. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose qui est complètement raté, ces deux personnages d'avocat.
Alors pour conclure, Kafka écrivait « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde ». Nous vivons actuellement des conflits mondiaux de grande ampleur et le dialogue se tend. En quoi votre roman, qui interroge la notion de justice et d'empathie, justement, à travers l'histoire d'un couple, a-t-il un rapport au monde, même si vous nous l'avez déjà un petit peu expliqué? Comment espérez-vous que ce roman puisse, en tous les cas, seconder d'une certaine façon le monde?
Oui, en fait, cette phrase de Kafka qui est très forte, très belle, moi, je la mets souvent en relation avec un vers d'un poète espagnol qui dit c'est devenu presque un proverbe en Espagne, c'est « Sois en guerre avec toi-même et en paix avec le monde ». Donc, c'est... Comment dire? Je ne vois pas d'intérêt à faire autre chose que s'occuper de se battre soi-même.
Oui, se questionner tout le temps.
Accepter les erreurs qu'on fait, ne pas les excuser d'une certaine façon. Et que par rapport au monde, effectivement, je pense qu'il faut chercher à être en paix pour que qu'il n'y ait pas quelque chose de personnel qui se déverse dans ce qu'on voit déjà déborder de violence et de haine. Mais c'est principalement cette idée d'oubli, je pense, qui est au monde. C'est-à-dire que moi, je situe souvent ça dans les années 80. Je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a un peu laissé, donc les années 1980, on a laissé un peu de côté l'idée de l'oubli, de l'amnistie, qu'on s'est précipité dans ce devoir de mémoire, donc qui était extrêmement revendiqué par des gens aussi très bien comme Lanzmann. Mais c'est pas... Voilà, on ne peut pas obliger la mémoire à quelque chose. La mémoire est libre et c'est très bien qu'à un certain moment, on ait arrêté, par exemple, d'en vouloir aux Allemands de la Première Guerre mondiale. C'est normal.
Oublier n'est pas forcément pardonner.
Non, c'est le contraire. Le vrai oubli, c'est quand on a suffisamment pensé, élaboré une question pour être trompé avec elle, mais trompé personnellement, justement. Moi, je ne demande pas pour venir... à la violence du monde. Je ne demande pas aux Palestiniens qui ont perdu 50 membres de leur famille, aux Israéliens dont on a pris des proches en otage, qu'on les a assassinés, d'oublier. Je n'ai aucune possibilité de me mettre à cet endroit-là. Ce serait une grossièreté absolue. Mais par contre, espérer qu'avec le temps, on ira plutôt vers l'oubli et qu'on ira plutôt vers ce que disait Borges, quoi. C'est le pardon et la vengeance. Il n'y a pas d'autre solution, l'oubli et les deux.
Donc, voilà, c'est sur ces beaux mots qu'on doit malheureusement conclure, parce qu'on est limité en radio. Exactement. C'est merci une très belle fin. Beau. Merci infiniment.
Merci à vous.
Dans 2 semaines. Merci Clément.